Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahi ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi shahli sadri, wa yassir li amri wa hlul 'aqdata min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous permet ce soir, après la salat de Isha, de reprendre enfin les programmes de la Sirat dans la masjid de Montreuil. Alors, pour information, durant le mois de Rabi'ul Awwal, on a décidé de faire des programmes de Sirat dans les autres masajid, où on fait des programmes de tafsir et de aqida, ce qui veut dire que dans l'étude de l'ouvrage Rahiq al-Makhtoum, on a un peu avancé, et on est arrivé au point où les Quraysh réalisent à quel point l'islam est en train de faire son chemin au sein de toutes les tribus arabes, les tribus nobles, les riches, très riches, mais également le peuple, si on peut dire ça entre guillemets. Et au départ, ce qu'ils voyaient comme étant une prêche, on va dire un peu marginale, sans intérêt, sans danger, ils réalisent que c'est un message qui est en train de toucher les cœurs et qui est en train de provoquer un changement au sein de la société à Mecca, et qu'ils vont bientôt perdre leurs acquis. Ils risquent de perdre leurs acquis si ce message d'unicité de Tawhid se propage. Et donc, ils vont se réunir et ils vont essayer de mettre en place un plan pour contrer la da'wa. Et c'est ce qu'on a fait ces trois derniers dars. On a vu qu'ils se sont mis à se moquer du prophète alayhi salat wa salam, à l'accuser d'être un menteur, d'être un sorcier, d'être un devin. Ils ont essayé de déformer l'enseignement de l'islam, c'est ce qu'on appelle la désinformation. Ils ont essayé également de comparer le Coran à des fables, à des histoires qu'il y avait chez les Perses et ainsi de suite. En fait, essayer de désacraliser complètement le message du Coran, en faisant croire que ce sont des récits que le prophète alayhi salat wa salam a lui-même entendu de la part d'autres personnes. Donc essayer de désacraliser le Coran. Et enfin, c'est le dernier point qu'on avait vu, il me semble, c'était vendredi ou l'atelier. Ils avaient fait une proposition au prophète alayhi salat wa salam de partager nos croyances. Un jour, on adore Allah avec toi, et un jour, astaghfirullah, tu adores les idoles avec nous. On fait 50-50. On partage, et comme il dit en créole, donne-nous n'a point bataille. Oui, mais ça ne marche pas de la aqida. Ça ne marche pas. D'accord ? Et c'est là que notre Rabb Azza wa Jal a révélé Qul ya ayyuhal kafirun, avec le dernier verset Lakum dinukum wa waliyadin. Pour bien montrer que Lakum dinukum wa mashallah, pour bien montrer que ça c'est le din de tawhid et qu'Allah n'accepte personne dans son unicité. Non. C'est le dernier point qu'on avait fait, et là ils vont passer à une autre méthode. Tout ce qu'on appelle pression psychologique, morale, calomnie, insulte, désinformation, désacralisation de la mission du Prophète sallam, ils ont vu que finalement ça ne sert strictement à rien. Et qu'ils ont beau essayer de, j'utilise le verbe harceler moralement, le Prophète sallam et les musulmans, par des pressions, des menaces, ainsi de suite, ils réalisent qu'en finalité, ces menaces, ces paroles touchent peut-être leur cœur, ça les atteint, mais ça ne les ralentit pas dans leur pratique de la religion et de la propagation du dîn. C'est-à-dire que ces sahaba, avec à leur tête le prophète alayhi salat wa salam, ils avaient un tel degré de sincérité, de dévotion, d'engagement, que rien ne pouvait les arrêter, parce qu'ils ont vu, pour les sahaba, ils ont vu cette lumière. Et le prophète alayhi salat wa salam, ayant reçu cette lumière de la part d'Allah, il savait que c'était sa mission de propager, quelles que soient les conséquences de cette mission et le danger qu'il peut y avoir. Et donc là, comme on a dit, il passe à l'étape supérieure, ce sont les persécutions. Je pense qu'on a tous entendu des récits concernant Hazrat Bilal et d'autres sahaba, mais là on va voir comment est-ce que soudainement ils vont basculer dans la violence physique. Et il est nécessaire de se resituer dans le contexte. On est dans la ville sainte de Mecca. On a le meilleur des hommes le meilleur des prophètes qu'Allah a envoyé sur la terre. Vous me suivez? On a le meilleur des livres, le Coran, qui vient d'Allah, parole d'Allah, protégé par Allah jusqu'au Qiyam. Et c'est l'ange Jibril en personne qui amène les versets qui révèlent au prophète alayhi salat wa salam. On a parmi les compagnons, parmi les gens qui sont auprès du prophète alayhi salat wa salam, des personnes d'exception. On a Abu Bakr, on a Omar. C'est la mouche qui te fait sourire?
Non.
Oui. Si j'étais paranoïaque, j'ai quelqu'un envoyé cette mouche pour m'embêter. Mais toi, tu avais un carrière sur ton épaule. Donc on ne voit, on voit pas souvent ce qu'on a sur nous. Bien, on ferme cette parenthèse. On disait, ils avaient Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il y avait là à Makkah les meilleurs des hommes de l'humanité. Mais il y a énormément de problèmes. Il y a énormément de difficultés. Il y a énormément d'épreuves. Et là, il y a une leçon, on va dire d'ordre général, hein, qu'on doit retenir, intégrer et surtout être capable d'appliquer à nous-mêmes. Je peux répéter, il y a des leçons qu'on doit. J'avais dit qu'on allait faire ça. Hein? C'était avec, à toi, je t'avais demandé. Non, non. On avait dit que, non, on peut répéter. Il y a des, hein, voilà, vous voyez. Il y a, Rachid, il y a des leçons qu'on doit comprendre, intégrer et être capable d'appliquer à nous-mêmes. Parce que c'est ça le but de la, d'étudier la Sira. C'est pas uniquement étudier la vie du prophète sallam, ce qui serait déjà quelque chose de noble et de magnifique. Mais je veux dire que c'est pas comme on étudie la biographie. Ce n'est pas la biographie, la Sira. Certes, c'est une étude, une biographie qui est bénie, mais c'est également tirer les leçons et voir comment Allah a agi avec la meilleure des créatures et réaliser que ce qui m'arrive, c'est incomparable, c'est infime par rapport à tout ce que le prophète alayhi salat wa sallam a pu vivre. Et donc retenir que le fait que ces personnes soient éprouvées, ce n'est nullement à cause de leur iman ou de leur état spirituel. Non, c'était les meilleurs des hommes, le meilleur des contextes. C'est Allah Rabbul Izza qui éprouve les gens qu'il aime. C'est Allah
qui éprouve les gens qu'il aime.
Et ça, c'est un hadith dans lequel est stipulé Ashadun nas bala'an al-anbiya. Les gens qui étaient les plus éprouvés, c'était les prophètes. Ensuite, ceux qui se rapprochaient le plus d'eux. Donc, moi, dans ma vie de tous les jours, quand je réalise que, mashallah, j'ai une bonne pratique de la religion, je suis assidu à la salah, je lis mon Coran tous les jours, je fais fajr tous les jours, même le dimanche, enfin c'est bête de dire ça, hein, même le dimanche, en jamaat, après la salah, tout le temps je lis le Coran, jusqu'au lever du soleil, je fais mon ishraq, ou qu'on appelle shurur, je fais mes doigts, mashallah, et malgré ça il m'arrive des tuiles, des problèmes, des difficultés. En aucun cas, tu ne dois sous-estimer tes bonnes actions. Ou te dire que Allah n'a pas accepté, ou te dire que, voilà quoi, est-ce que ça sert à quelque chose? N'a'udhu billah. Il faut fermer totalement cette porte à Shaitan. Parce que les meilleurs des hommes, on a expliqué, je ne vais pas répéter, ils ont connu des épreuves, des pressions psychologiques, mais là on va voir également des persécutions. Donc, on est en l'an 4. Comment on appelle ça? De l'égide ou de la prophétie? Bien sûr, de la prophétie. Quand on parle de l'Égypte, c'est à Madina, d'accord? C'est quoi le Sajjad? Le prophète, sans s'amener dans quelle ville?
À Madina.
Non, au début.
À Makkah.
Et après, il est parti à
Madina.
Pourquoi il te manque deux dents?
J'ai arraché.
Tu as arraché, c'est aligné en plus. Hein? Bien. Donc, on est en l'an 4 de la prophétie. Ça fait des mois que notre prophète alayhi salat wa sallam, les musulmans subissent, on va dire, ce harcèlement et ainsi de suite. Mais là, je suis en train de lire un petit peu, ils constatent que ça ne sert strictement rien. Et là, les Quraysh vont se réunir. Ils sont 25 notables, 25 chefs qui vont se réunir pour trouver une solution pour passer à la vitesse supérieure. Et c'est là qu'on réalise que à toute époque, il y a eu des gens qui se sont réunis pour faire le mal. Je ne dirai pas plus. À toute époque, il y a eu des gens qui se réunissent pour faire le mal. Donc, quand vous entendez à une époque proche ou lointaine, que des gens se sont réunis pour essayer de suite. Ne vous inquiétez pas, tout ça c'est sous contrôle. On peut avoir les gens les plus puissants qui prennent les pieds des décisions contre l'islam et les musulmans, mais c'est sous contrôle du Seigneur, Azza wa Jal. Tout comme cette assemblée de Quraysh, c'est-à-dire c'est des gens qui avaient Makkah de leur main, 25. Ils se réunissent pour décider cette fois-ci qu'on va commencer à torturer et à agresser, et ils vont légaliser l'agression. Parce que jusqu'à maintenant, à Makka, il y avait des règles. Hein. C'est vrai qu'on entend très souvent les Arabes dans l'ignorance, ils faisaient ça. Oui, il y avait plein de choses, il y avait du n'importe quoi, mais la ville était quand même structurée. Il y avait des lois. Les Quraysh avaient des lois. Et c'était parfois des lois très sévères. Hein. Surtout quand il s'agit du sang, si on fait du mal à une famille, il y a toute la famille qui vient. Par exemple, si quelqu'un touche Nour, Atcha, ben on a tous les Atcha qui viennent. Bohat Atcha. Bohat Atcha. D'accord ? Ils étaient fermement attachés à tout ça. Et là, ils ont décidé que torturer ou même tuer ces musulmans, il n'y aurait aucune conséquence. C'est-à-dire, c'est eux qui font les lois. Mais ils ont oublié qu'au-dessus d'eux, il y a Rabbul Arsh al-Karim. Et donc, Al-Mubarak Fawri, rahimahullah, explique que concernant les nouveaux musulmans qui n'avaient pas de famille noble, c'était pour eux un boulevard. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils les emprisonnaient, ils les torturaient, ils les tuaient, ils le faisaient. Mais après, le tueur va développer ça plus tard. Mais concernant celui qui prêche, Muhammad ibn Abdullah, alayhi afdalu salat wa tamu taslim, c'était tout autre chose. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et Al-Mubarak Fawri, rahimahullah, donne trois raisons. Et c'est la première raison qui nous touche le plus. Je lis. Des fois, on s'arrête et on lit. Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas facile de lui nuire. De le nuire, j'aurais dit. Parce qu'il était vénérable et doté d'une personnalité exceptionnelle, ses ennemis, comme ses amis, ne pouvaient que le respecter. C'est-à-dire que même ses pires ennemis, quand ils le voyaient, ils éprouvaient un tel respect pour lui que, même s'ils avaient de mauvaises intentions, ils ne pouvaient pas les, trouver le verbe, les mettre à exécution. C'était impossible. Bien qu'il y en a qui avaient de mauvaises intentions, mais quand ils voyaient ce qui se dégageait de cet homme, alayhi salat wa salam, ça les bloquait net. Je pense que ça, c'est la plus belle chose qu'il faut souligner. Sa noblesse de caractère et toute la lumière qui émanait de An-Nabi alayhi salat wa salam. Et il dit, seul oser commettre des actes, après la traduction est lourde, des actes mesquins. C'est quoi un acte mesquin? On n'utilise plus ce mot. Bref, il y avait certaines personnes qui osaient le faire. Et là, il va citer plusieurs cas. Entre autres, ça va revenir à Abu Lahab et Abu Jahl. D'accord? Donc, le cheikh a cité la première raison. Et deuxièmement, il dit que le prophète alayhi salat wa salam avait auprès de lui son oncle. Rachid, comment s'appelait son oncle? Qui le protégeait? Abu Talib, Zakallah Khair. Abu Talib, son oncle, qu'il a adopté après le décès de son grand-père, bien vu. Après le décès de son grand-père, Abdul Muttalib. Son oncle avait beaucoup de muhabba pour lui. Il admirait son neveu, il était fier. Mais il y avait un blocage. C'était quoi le blocage? Ça ne sortait pas. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ça ne sortait pas. Et on verra que même avant de mourir, ce n'est pas sorti. Et on développera ça en temps voulu, Inch'Allah. Et on fera shukr qu'Allah nous a accordé là, le iman. Alors que celui qui protégeait son neveu, alayhi salat wa salam, il est mort à la millati Abdul Muttalib, Banu Hashim, il est mort sur la religion de leurs ancêtres. Parce qu'Allah ne l'a pas accepté. Allah l'a accepté pour quelque chose que si on se réunissait, on n'aurait jamais pu faire. Un tel khidma de Nabiullah. mais Nour al-Iman n'est pas entré dans son cœur. Et ça, c'est la sagesse d'Allah. Pourquoi, et ainsi de suite. J'ai dit qu'on ne rentre pas dans les détails, mais vous savez, la sirat, c'est vraiment, c'est une pépite. Il y a tellement de choses, tellement d'enseignements. En fait, c'est l'histoire de l'islam. Pas à pas, on voit comment Allah agit avec ses créatures. Il y a de grandes leçons à retenir. Et donc, quand, des fois, il m'arrive des choses où je constate des choses et je me dis que oui, mais c'est pas normal, c'est incohérent. Pourquoi à tel endroit, des gens qui prient 5 fois par jour, ils sont opprimés, ils sont chassés de leur terre, on fait ça, ils meurent et personne n'entendra jamais parler d'eux, ils ne trouveront jamais justice sur la terre, alors que. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui croient en Allah mais qui meurent de faim, de leur pays à la famine, on parle de l'Éthiopie pendant quelques temps et ainsi de suite, et d'autres pays. Vous savez, toutes ces questions-là, hein, il faut les balayer. Ça, c'est Shaitan qui met dans ta tête. Shaitan est là pour Alladhi Yuwas. Hein, fille ? C'est Dieu de lire le signe sans dents. Ça va venir, Inch'Allah. Un jour, tu seras un grand qari. Amin. Alladhi Yuwas fi soufi soudurin nas. Et le waswasa, les insufflations de Shaitan, c'est pas uniquement il met dans ta tête, aller fizina, aller voler, aller cause mentir. Il y a de ça aussi. Mais après, pour certaines personnes, il sait que ça va pas marcher. Il va pas voir, ouais, des gens qui marchent là sont assidus et tout. Il sait que, voilà, Shaitan, il est fin de son approche. Il est psychologue, psychiatre, psychopathe. Il sait exactement ce qui est adapté pour chaque personne. Ainsi donc, quand il n'est pas du côté, enfin, de la rubrique péché, il va te travailler sur la vision du monde. Philosophe. Il y a des gens qui aiment philosopher. S'assoit comme ça, ils pensent, ils réfléchissent. Ils méditent. On peut méditer sur la grandeur d'Allah, de la création, sur ce qu'Allah t'a accordé. Allahu Akbar. Il y en a. Il y a suffisamment à dire. Mais non, ils vont refaire le monde. Vous savez, moi, quand je trouve une personne qui commence à me dire comment il est, qu'est-ce qu'il raconte, et qui commence à me parler des faits très général, je m'en vais, je fuis, je peux pas, j'arrive pas. Parler inutile, non, je suis désolé, c'est pas possible. On ne t'a pas demandé de refaire le monde. Donc, excusez-moi, quand les gens se posent ce genre de questions existentielles et qui, en finalité, c'est dangereux parce que ça remet en cause l'organisation d'Allah. Quand tu commences à te dire comment ça se fait que des gens qui ont iman, ils meurent de faim, tu es en train de remettre en cause Ar-Raziq, celui qui donne le rosi, la subsistance. Donc, pour tout ça, tu dis A'udhu billahi minash-shaytanir rajim, premièrement. Un, tu te concentres sur l'essentiel. Regarde, tu l'as bien fait Fajr ce matin. Regarde si tu n'as rien manqué. Regarde, vérifie si tu as bien contrôlé ton regard, si tu n'as pas fait de mal aux gens, et ainsi de suite, plutôt que de penser à l'humanité. Et réalise que la chose la plus, je ne veux pas utiliser le mot incohérent, mais la plus difficile à accepter. Écoutez, il y a quelqu'un qui va répéter ça. Hein. La chose la plus difficile à accepter dans un raisonnement humain, c'est que Abu Talib, celui qui était protecteur du prophète alayhi salatu wassalam, il a quitté ce dunya sans at-tawahid. Donc, si tu acceptes le fait qu'Allah a une sagesse qui nous échappe totalement, tu dois être capable d'accepter le fait qu'il se passe des choses que tu n'auras pas réponse à tout. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a compris. Ça, c'est une grande leçon qu'on extrait de la sirah. Allez, on revient. Oui, et donc Abu Talib, qui était, on connaît, un chef de tribu, qui était respecté, ben, il était le protecteur du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est là qu'on voit qu'Allah Rabbul Izzah, des fois, envoie sa nusra, son aide, par une personne. Donc là, sa nusra, l'aide d'Allah, c'était par Abu Talib. Des fois, Allah envoie son aide par un ange. Des fois, Allah envoie son aide de façon invisible, sans intermédiaire, je voulais dire. Tout à l'heure, c'était avec des intermédiaires. Des fois, Allah envoie son aide sans intermédiaire. Et ça, on verra dans un instant. Je ne sais pas si on va arriver à là, dans nos 25 minutes. C'est l'épouse d'Abu Lahab. Celle qui portait des... Hein? Des fagots. Oui, des fagots. à propos duquel et de laquelle Allah Rabbul Izzah a révélé Sajjad. Tabbat yada. Le qalqala n'est pas bien fait. On peut arrêter de tousser. Aïwa. Ma aghna anhu maluhu. Là, c'est un petit qalqala, c'est pas le même. Très bien. Sayasla naran. Après, on parle de. De qui Wam. Wamratuhu hammalatal hatab. On verra pas ça aujourd'hui, mais j'ai trop envie de vous en parler. Parce que voilà, sinon, on va rester sur une frustration. Allah envoie des fois son aide sans intermédiaire. L'épouse d'Abu Lahab entend ce verset, et on verra quand on étudiera l'histoire de l'épouse d'Abu Lahab, c'était prévu pour aujourd'hui, quel mal elle a fait au prophète sallam. Et donc, elle est énervée, elle est agacée, elle se sent humiliée. Elle prend une poignée de cailloux, de roches. Elle se dirige vers l'endroit où le prophète alayhi salat wa salam avait l'habitude de se réunir avec les sahaba. Et entre autres, il y avait Abu Bakr al-Siddiq. Il n'y avait pas encore Omar. Pourquoi il n'y avait pas encore Omar? Oui, il n'était pas encore converti à l'islam. Bien. Il prend des cailloux, des roches. Et il va voir le prophète sallam, il va voir, dans cette assemblée, elle a une intention ferme, c'est de jeter des cailloux au visage de Nabi Karim alayhi salat wa salam. Écoutez attentivement, je pense que tout le monde connaît ce récit, tout le monde connaît ça. Mais il y a de grandes leçons à retenir, on lit, on relit, ça augmente iman ça. Et ça augmente notre confiance en Allah, le yaqin, avec asbab, mais également doun asbab, sans intermédiaire. Elle entre dans la mosquée, wallahi al-azim, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam est assis. J'allais dire comme vous et moi, mais pas comme vous et moi. Pas comme vous et moi. Rien ne sera comme, ne peut être comparé à lui, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il est assis, autour de lui, il y a les sahaba. L'épouse d'Abu Lahab, elle a déjà armé donc sa main pour jeter les cailloux. Et il voit les gens assis, et au milieu, il y a un cercle, il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors que le prophète est devant elle, il dit à Abu Bakr, où est ton compagnon? Mohammed, il est où? Le prophète est devant elle. Il dit, il est où? Il dit, tu sais Abu Bakr, ton compagnon nous a humiliés avec l'histoire de Tabat Yada. Elle dit, voilà, je suis venu pour l'agresser. Et l'histoire, enfin après Abu Bakr réplique, ainsi de suite. Allah a envoyé sa nusra sans Abu Talib, sans Malaika, sans intermédiaire. Allah a mis un voile sur ses yeux. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدِيهِمْ. Tu n'as pas encore pris Yassine. Bientôt, Sadda. Exactement comme lors de l'émigration, ce sont des événements qu'on verra, paf, on va aller un peu plus vite, ils arrivent près de la grotte, ils regardent, ils ne voient pas. Allah a bouché leurs yeux. Donc ça c'est, quand on parle d'Abu Talib, Allah l'a mis sur le chemin de Muhammad alayhi salat wa salam. Cet homme, Abu Talib, avait un rôle dans la réussite de la mission du prophète alayhi salat wa salam, fil ahd al-makki, de la période mekkoise. Et Allah des fois envoie son aide sans intermédiaire, et ça renforce, comme on a dit, notre conviction et notre yaqin. Quelle que soit la situation, ne crains rien. N'ayez aucune crainte. Ce qu'Allah a prédestiné, ça va arriver. Et personne ne peut te faire un mal qui n'est pas écrit dans ton destin. C'est ce que par exemple dit Ibn Abbas, wa'alam anna dunya law ijtama'at. Si l'humanité se réunissait, ala an yadruk, pour te faire du tort, ils ne te feront rien d'autre que ce qui est écrit dans le destin. C'est-à-dire que le croyant, avec ce genre de hadith, de texte et de récit, le croyant n'a plus peur. On n'a pas peur des ennemis, on n'a pas peur des gens qui peuvent nous faire du mal physiquement ou d'autres façons, on n'a pas peur des maladies, on n'a pas peur des calamités, des accidents, de ce qui peut arriver. Normalement, le croyant ne vit pas dans l'anxiété. Et il n'y a pas la peur du lendemain, il n'y a pas la peur de la fin du mois, il n'y a pas la peur de comment mes enfants vont vivre, dans quel monde ils vont vivre. Vous savez, des fois, j'écoute la radio quand je suis un petit peu désespéré. et ça renforce mon désespoir. Quand on entend, j'ai rien contre les écolos, hein, s'ils mangent des salades, je suis content pour eux. Des écolos et ainsi de suite, ils disent que on ne veut pas faire d'enfants. Parce que on veut pas que nos enfants naissent dans un monde où il y aura le chaos, réchauffement climatique, montée des eaux, pollution, couche d'ozone. En fait, peut-être ils veulent pas changer de couche, mais je sais pas. Couche d'ozone trouée, et ainsi de suite. Ça, c'est quand il n'y a pas la ilaha illallah dans le cœur. Il n'y a pas de yaqin, il n'y a pas de conviction, on ne croit en rien de supérieur. On croit que ce qu'on voit et on pense qu'on a le contrôle. Je referme cette parenthèse. Enfin, t'es un peu loin là, non? Illa ma kataballahu lana. Mais c'est pas le verset que je veux savoir où est-ce que je me suis arrêté avant de déborder comme ça, avant de faire le procès des écolos. Bref, allez, on revient. Allah a envoyé Abu Talib sur le chemin de la prophète alayhi salat. Il aura un rôle essentiel dans la période Makki. Et donc, voilà. Ainsi, les seules personnes qui vont oser faire du mal au prophète, c'est Abu Lahab, Abu Jahl et quelques autres personnes dont on verra des petites années. Donc là, l'auteur va citer des histoires. Il commence, il dit, Abu Lahab prit lui-même l'initiative d'entreprendre cette nouvelle série de persécutions. Première chose qu'Abu Lahab va faire, vous savez que Abu Lahab avait deux fils qui étaient mariés à deux filles du prophète alayhi salat wa salam, Ruqayya et Umme Kulthum radiyallahu anhuma. Et Abu Lahab a demandé à ses deux fils de divorcer des deux filles du prophète alayhi salat wa salam. Il y a déjà, c'est un impact psychologique, c'est une violence. Il fait du mal aux filles du prophète alayhi salat wa salam de cette façon. Ça c'est un. Deuxièmement, et ça fait très mal. Le prophète alayhi salat wa salam avait eu un premier fils qui était mort, un premier fils lui qui était mort, et dans certaines sources on dit qu'il s'appelait Ibrahim, et un second fils qui s'appelait Abdullah. Et Abdullah est mort. Et on a eu l'occasion de parler de ça, on ne va pas répéter. Pourquoi est-ce que les deux leçons de sagesse, pourquoi est-ce que les garçons du prophète alayhi salat wa salam ne devaient pas vivre? Parce que la prophétie se transmet de père en fils. Tu lèves le doigt comme à l'école. C'est bien. C'est bien. Et deuxièmement, l'autre sagesse, et là c'est un peu plus fin, mais si le prophète sallam ne devait pas avoir de fils pour pas que la prophétie se transmette, Allah aurait pu lui donner que des filles. Pourquoi lui donner des garçons, des bébés, des garçons qui vont mourir en bas âge? Vous suivez? Ahmed, tu suis? Ce qui va causer beaucoup de tristesse au prophète alayhi salat wa salam et à son épouse Khadija. Le prophète a eu tous ses enfants avec Khadija radiyallahu anha. Et là, on a eu l'occasion d'expliquer la hikmah d'Allah, la sagesse d'Allah. Donc, mes chers frères, tout ça, ce sont des leçons de vie à retenir de ce qui arrive au prophète alayhi salat wa salam et de la façon qu'Allah agit avec la créature qu'il aime le plus au monde, qu'il aime le plus dans l'univers. Le prophète alayhi salat wa salam, donc, il a ce petit bébé qui s'appelle Abdullah et cet enfant va mourir. Bébé, nourrisson. Abu Lahab, je lis, va se réjouir avec malveillance de la mort du second fils du prophète alayhi salat wa salam, Abdullah. Quelle tristesse pour le prophète alayhi salat wa salam de perdre son enfant. Tenir son bébé mort dans la main et l'enterrer. Et entendre que son propre tonton, et on a eu plusieurs fois l'occasion de dire, chez les Arabes, l'oncle c'était comme le père, celui qui doit avoir de l'affection pour lui. Il se moque et il se réjouit de la mort d'un bébé. Quel niveau de cruauté, mais quelle tristesse et quelle blessure dans le cœur de la prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et il commençait à dire que l'homme, en parlant de prophète sallam, l'homme dépourvu de progéniture mâle, c'est-à-dire garçon. Et vous savez, chez les Arabes, avoir des garçons, c'était aussi important que d'avoir de l'argent. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Pour les Arabes, c'est avoir des enfants, des garçons, et avoir de l'argent. C'était l'honneur pour eux. Et donc, il a commencé à dire que lui, son nom sera oublié parce qu'il n'a pas de garçon. Et c'est là qu'Allah Rabbul Izza a révélé Rachid la sourate. Hein, qui trouve ? Allahu Akbar, c'est le plus jeune de l'assemblée. Inna a'atayna kal kawthar. Qu'Allah accorde au Prophète sallam le bassin de Kawthar. Fassalli li rabbika wanhar. Et la façon de remercier Allah, prier et sacrifier pour Allah. Inna sha'niyaka, c'est ce qui nous intéresse. On appelle ça le shahid. Inna sha'niyaka huwal abtar. Ah, j'ai oublié ça, djad. Huwal abtar. En parlant de ces gens qui ont sous-estimé, critiqué, essayé de ridiculiser le Prophète sallam, c'est eux qui seront humiliés. Et c'est eux qui seront totalement oubliés. Alors qu'ils avaient des garçons, ainsi de suite, leur nom s'est perdu. Alors que le nom du Prophète alayhi salatu wassalam, la dernière fois qu'on l'a entendu prononcer, c'était quand ? Ben, c'était là, tout de suite. J'allais dire qu'on a fait la salat en lisant le salat ala nabi. Non, mais c'est tout le temps, on fait Allahu Akbar. D'accord ? Ce qui est intéressant avec la sirat, on va s'arrêter, inshallah. Ce qui est intéressant avec la sirat aussi, c'est de voir asbabun nuzul, les circonstances de révélation des versets. Et en relisant un peu tout ça, ben, j'ai retrouvé plein de versets qu'on a fait au Latani récemment. Dans Yayuhal Muddathir, mais également Yayuhal Muzzammil. Et vendredi, on a vu un petit passage de Suratul Insan également. En fait, tous les versets qu'on voit de le 29e juz, ce sont des versets makki. Et la plupart de ces versets, c'est de la première période de Makkah. Ben, c'est exactement... Là, on a eu l'occasion d'étudier des versets. Et là, on voit la chronologie, à quel moment ces versets ont été révélés. C'est très enrichissant. C'est très enrichissant, subhanallah. Abu Lahab. On a dépassé 20 minutes là, non ? Ah, on a 31 minutes. Il faut qu'on s'arrête. On a des frères qui sont, mashallah, volontaires pour fermer la masjid. On ne met personne en taklif. Abu Lahab également, et dans cette université, Abu Jahal, suivait le prophète alayhi salat wa salam partout lors du hajj. Parce qu'on avait dit la dernière fois au Latani, leur cauchemar c'était le hajj. Parce qu'au hajj, il peut toucher toutes les tribus arabes. Donc il fallait pas qu'il propage le tawhid. Partout le prophète allait, il le suivait. Et quand le prophète avait fini de parler, il ne l'écoutait pas, c'est un menteur. C'est un menteur. Et là, on a eu l'occasion de dire, mais si c'était pas ici, quelle douleur, quelle tristesse. Imaginez que, astaghfirullah, je ne compare pas à moi, na'oudou billah, vous comprenez. Mais imaginez que moi, je fais le programme Rahiq al-Makhtoum, et un instant après, il y a quelqu'un de ma famille, mon oncle ou un proche qui vient, il dit, n'écoutez pas mon Ibrahim, c'est un menteur, c'est un hypocrite. Il vient, il dit ça debout devant vous. Qu'est-ce que je ressens ? Quelle douleur, quelle humiliation. Pas humiliation, mais quelle tristesse. Mon propre tonton qui fait ça, qui dit ça. C'est ce que le prophète alayhi salat wa salam vivait. Ça faisait partie des difficultés. Et je clôture en citant, en lisant, qu'Abu Lahab ne se contentait pas seulement de cela, quand il n'était pas dans le hajj, allant jusqu'à lui lancer des cailloux qui le blessaient au pied. On ne parle pas encore de Taïf, là. On parle déjà, on est à Makkah, au tout début, quand le prophète prêchait, Abu Lahab lui lançait des pierres et ça touchait les pieds du prophète sallam et ça le blessait au niveau de ses pieds, de ses talons. Voilà ce que le prophète alayhi salat wa salam commence à vivre. Et puis il y a l'épouse, mais ça on va raconter cette histoire en détail vendredi, inshallah. On vous expliquera comment ça va se passer, inshallah. Et donc, on verra au fur et à mesure ce qu'Abu Lahab a fait, ce qu'Abu Jahal va faire. Et Utba ibn Abi Mu'ayt également, Ubay également, et d'autres parmi les notables de Quraysh. Et la grande leçon à retenir, c'est que dans toutes ces situations, c'est ce qu'on a déjà dit deux ou trois fois, sans le moindre doute, le prophète alayhi salat wa salam invoquait Allah pour qu'il envoie son aide. La délivrance face aux injustices. Et Allah était capable d'envoyer son aide, oui ou non ? Bien sûr que oui. Allah n'envoie pas son aide tout de suite. Allah envoie son aide dans certaines situations. Allah met Abu Talib. Non ? Allah empêche l'épouse d'Abu Lahab de jeter des pierres, mais pour certaines situations de persécution, quand le prophète reçoit des pierres, comme on verra même à Taïf, Allah laisse. Et c'est là qu'on voit toute la sagesse d'Allah dans les épreuves. Qu'Allah Rabbul Izzah accepte cette assemblée. Je pense que voilà, on écoute, on explique et tout, mais nos cœurs restent profondément blessé par les événements de l'actualité, ce qui se passe en Palestine. Mais vous savez, le sujet est tellement sensible. La mort de n'importe quel être humain, c'est un drame. Nous demandons à Allah Rabbul Izzah d'apaiser les cœurs et d'envoyer la paix dans ces régions et la justice. Et que nos frères et sœurs arrêtent de souffrir. Et qu'Allah apaise, envoie sa sakina sur l'humanité. La seule chose que nous avons, ce sont nos invocations. Ne soyons pas égoïstes de nos doigts. Vous savez que quand vous faites doigt pour quelqu'un, il y a un ange qui vient, j'ai pas eu le temps de faire des devinettes parce qu'on a dépassé l'heure, il y a un ange qui vient et dit « Walaka mithlu dhalik ». Faites doigt pour Abdurrahman, faites doigt pour ainsi de personne, un ange vient, Allah t'accorde la même chose, Allah t'accorde la même chose. C'est-à-dire que donc, quand on fait, et le prophète me dit également que quand quelqu'un dit « Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat », tu fais doigt pour les musulmans du monde entier, Allah t'accorde une récompense pour chaque vie humaine musulmane. Vous vous rendez compte, ça fait des milliards. Ça, c'est la puissance du doigt qu'on fait pour les autres. Ainsi donc, quand tu fais doigt, ne pense pas qu'à ta personne, pas uniquement ma santé, mon commerce, ma famille, mes parents. C'est bien, c'est-à-dire que tu crois en Allah, tu lui demandes, tu sais que tout est dans ses mains. Mais fais doigt également pour ta famille, pour tes parents, pour tes voisins, pour la umma. Et pour nos frères et sœurs qui sont en souffrance dans le monde entier. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alors vendredi, on ne sera pas au latanier. Il y a un autre programme prévu, j'ai cédé mon créneau du vendredi soir, donc on fera en ligne. Donc là sera oui, en ligne et puis il y aura la diffusion inchallah. Jazakallah khair.